Bonjour à tous et à toutes. C'est vrai qu'on va poursuivre sur les thématiques qu'on a vues la pensée qui était là pendant le jeûne et prière, les trois soins à vivre, la protection de l'Église. Certains ont dit, bon, ça fait quand même beaucoup de répétitions là-dessus, mais ça sera peut-être l'occasion pour ceux qui étaient là de faire un peu de révision en vue de l'examen. Je ne savais pas qu'il y avait un examen qui était prévu à la fin, non? Je vais vous proposer ce matin, parce que c'est une bonne discipline, je crois qu'on peut faire chaque jour au quotidien, puis d'examiner notre vie, notre pratique à la lumière de la parole de Dieu. Voilà, un bon examen à faire tous les jours, lorsque vous lisez la Bible, pas juste dire ah, c'est beau, j'apprends des belles choses, mais Seigneur, où j'en suis par rapport à ce que tu nous dis dans ta parole. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse réaliser que la parole de Dieu nous invite, comme on l'a vu ensemble la semaine dernière, à vivre la prophétie en Église. Mais non pas seulement qu'il y ait des prophètes ou des gens qui prophétisent qui vont se lever dans l'Église, mais bien le fait que ce soit en Église qu'on a appelé à gérer la prophétie ou à discerner la prophétie, mais aussi, et même davantage, que le prophétique fait partie de l'identité de l'Église, du peuple que constituent les croyants en Jésus-Christ, c'est ça l'Église, le rassemblement des croyants en Jésus-Christ. Et le Nouveau Testament présente, vous savez, l'Église, comme le corps de Christ, comme un peuple qui a une dimension prophétique. Et par conséquent, la prophétie, on vous dit, ce n'est pas quelque chose d'optionnel pour l'Église, mais c'est parce que c'est une des choses qui appartient à son identité. Au fond d'un peuple, ce qui a été déversé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est un esprit aussi de prophétie. Dieu veut faire de nous ses porte-paroles dans ce monde. Il veut nous inspirer pour transmettre un message de sa part. C'est ça, une prophétie. Alors, à travers ce message, je vous invite à vous poser la question ce matin, où est-ce que j'en suis, personnellement, est-ce que nous en sommes par rapport à la pratique de la prophétie? Est-ce que je suis conscient que le Saint-Esprit qui m'a été donné peut inspirer mes paroles pour transmettre peut-être un message de sa part à d'autres que moi? Et est-ce que je suis prêt à le laisser faire? Que je suis prêt à vivre ici, cela non pas en solitaire, mais en Église. Est-ce que je suis prêt à jouer mon rôle au sein du peuple prophétique que constitue l'Église? Donc, c'était le tour des trois soirées qu'on a fait pendant le jeûne et prière. C'est vrai que je vais reprendre un peu les principes qui ont été présentés lors de ces trois soirées, mais pour éviter aussi de répéter quand même pour ceux qui étaient là. Je trouve que ça peut être intéressant de prendre un exemple qu'on trouve très concret dans le Nouveau Testament, un dossier qui illustre bien, je crois, les différents principes qu'on a pu voir la semaine dernière. Et ce récit se trouve dans le livre des Actes, et on va lire ensemble dans le livre des Actes, le chapitre 21, et on va lire à partir du verset 8. Acte 21, à partir du verset 8. C'est un récit pour ceux qui connaissent bien le livre des Actes, qui se situe à la fin du deuxième voyage missionnaire de Paul. Paul est de retour depuis la Grèce, l'Asie mineure, jusqu'à Jérusalem, il est en voyage, et là, il arrive à Césarée, qui est la dernière étape avant l'arrivée à Jérusalem. Alors, lisons ensemble la parole de Dieu. Le lendemain, nous sommes arrivés à Césarée. Là, nous sommes entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, et nous avons logé chez lui. C'était l'un des sept. Vous vous souvenez, les sept qui ont été nommés pour assister les apôtres au début des Actes, chapitre 6. Donc, Philippe en faisait partie. Au début de la lecture, il avait quatre filles, non mariées, qui prophétisaient. Nous étions là depuis plusieurs jours lorsque arriva de Judée un prophète nommé Agabus. Après son arrivée, il prit la ceinture de Paul, s'en servit pour se lier les pieds et les mains, et s'est dit : voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture sera lié de cette façon par les Juifs à Jérusalem, puis ils le livreront aux Juifs. Après avoir entendu ces mots, nous-mêmes et les frères de Césarée avons supplié Paul de ne pas se rendre à Jérusalem. Mais il répondit : pourquoi pleurez-vous et cherchez-vous à briser mon courage? Je suis prêt, moi, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. comme nous ne parvenions pas à le convaincre, nous n'avons pas insisté, nous avons dit que la volonté du Seigneur soit faite. Lors des soirées que nous avons priées la semaine dernière, on a vu que la communication prophétique pouvait être divisée ou schématisée en trois étapes. La première étape, c'est l'inspiration. Le Saint-Esprit vient inspirer peut-être une pensée, une image, quelques mots parfois en nous, une vision, et on sait que ce n'est pas juste pour nous, c'est pour quelqu'un d'autre et que le Seigneur nous. C'est quelque chose qu'on a appris à transmettre. Donc, c'est la première étape, l'inspiration. La deuxième étape, c'est la transmission. Une fois qu'on a reçu quelque chose qu'on pense être de la part du Saint-Esprit, du Seigneur, on est prêt à transmettre à la personne à qui c'est concerné, ou à l'Église, ou à ses destinataires. Et enfin, la troisième étape, c'est celle qui consiste, on a en particulier de ceux qui entendent la prophétie. En tant qu'Église, on est appelé à accueillir la prophétie, mais aussi à la discerner. Et je crois que le récit qu'on vient de lire, cette histoire avec Agabus, ça illustre bien ces trois étapes de la communication prophétique. La première chose que nous pouvons remarquer, c'est que la prophétie, c'est une parole inspirée par le Saint-Esprit. Vous voyez comment Agabus va introduire sa prophétie. Il dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit ». Si vous vous souvenez un peu du prophète de l'Ancien Testament, dans la manière dont souvent, on nous est dit qu'ils introduisent ou ils concluent leur prophétie, ils disent « Voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel, Yahvé. Voici ou ainsi parle le Seigneur. » Ce qui est intéressant, c'est que Agabus qui reprend un peu cette formule, ce n'est pas le Seigneur ici, c'est le Saint-Esprit. « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. » La prophétie est présentée comme une parole inspirée par le Saint-Esprit. Alors, bien entendu, lorsque le Saint-Esprit parle, nous savons que le Saint-Esprit est une des personnes de la Trinité, c'est Dieu qui parle. Mais ce n'est pas par hasard, je crois, que le projecteur est vraiment sur le Saint-Esprit. Et si vous avez déjà lu le livre des Actes, vous avez sûrement remarqué que son auteur, Luc, il insiste beaucoup sur le rôle du Saint-Esprit dans le livre des Actes et dans la vie de l'Église, puisque le livre des Actes nous raconte les 23 premières années, on pourrait dire, de la première Église. Le Saint-Esprit est celui qui permet notamment la mise en œuvre de la mission des disciples. Les disciples de Jésus-Christ, on découvre ce Saint-Esprit qui est une puissance qui va permettre à de simples pécheurs de Galilée, qui ne sont pas forcément des gens, voilà, comme on voit avant la Pentecôte, on se dit, voilà, c'est des gens un peu comme vous et moi, tout à fait normaux, et puis tout d'un coup, ils sont remplis du Saint-Esprit, et voilà qu'ils se prennent à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et le livre de Actes nous raconte comment cette évangile, cette bonne nouvelle va être propagée non pas simplement en Jérusalem, en Judée et en Samarie, mais jusqu'aux extrémités de la terre, et notamment jusqu'à Rome, qui est la capitale de l'Empire romain, du monde connu, on pourrait dire, pour l'époque. Et moi, c'est Saint-Esprit finalement qui permet cela. Et puisqu'une force et une puissance, le Saint-Esprit est même présenté comme une véritable personne dans le livre des Actes et aussi dans l'évangile de Luc qui a été écrit par le même auteur. Le Saint-Esprit, on le dit dans l'évangile de Luc, il va conduire Jésus au désert. Ou bien, il y a cette histoire avec Philippe qui est enlevé par le Saint-Esprit. On dit aussi qu'Ananias et Saphira ont menti au Saint-Esprit. Vous voyez, on parle du Saint-Esprit comme d'une personne, quelqu'un qui conduit, qui enlève, à qui on peut mentir. Mais il y a une activité du Saint-Esprit qui est particulièrement soulignée dans les livres de Luc et surtout dans le livre des Actes, c'est que le Saint-Esprit est un esprit qui parle. On trouve de nombreuses paroles inspirées par le Saint-Esprit dans le livre des Actes. Par exemple, à la Pentecôte. La Pentecôte, vous vous souvenez, c'est tout le Saint-Esprit vient sur les disciples qui sont remplis du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Ils nous disent qu'ils parlent. Ils parlent dans des langues non apprises. Ils disent les grandeurs de Dieu dans des langues inconnues. Ils sont inspirés par le Saint-Esprit pour transmettre une parole inspirée. Et après, juste ce jour-là encore, l'apôtre Pierre, qui lui est aussi rempli du Saint-Esprit, va prendre la parole. Et il va prêcher l'évangile. Et qu'est-ce qui se passe quand il prêche l'évangile rempli du Saint-Esprit comme il correspond? Et un peu plus loin, au chapitre 4, là, les disciples commencent à être persécutés, ont des menaces, on leur dit vous n'avez plus intérêt à annoncer l'évangile. Ils vont se retrouver, ils vont prier ensemble. Et là, il nous dit à nouveau qu'ils furent tous frappés de pharisie et, qu'est-ce qu'ils vont faire, de quelle est la conséquence, ils disaient la parole de Dieu avec assurance. Ainsi, Saint-Esprit produit quelque chose au niveau de la parole. Et puis, on prend le sens comme ça dans le livre des Actes. Le Saint-Esprit produit le parler en langue, Saint-Esprit inspire la prophétie, il oriente le témoignage, il va donner une parole de discernement à Paul notamment, il va inspirer des décisions de l'Église. En acte 15, il va nommer même des anciens, on dit que les anciens de l'Église ont été établis par le Saint-Esprit. Autrement dit, ça nous montre que notre Dieu n'est pas un Dieu silencieux, qui écouterait nos prières silencieusement, avec révérence presque. Il est un Dieu qui parle. Et le Saint-Esprit est le moyen qu'il utilise pour parler à son Église. Et comment le Saint-Esprit s'y prend-il pour parler? Est-ce qu'il fait résonner le vent dans le ciel? Est-ce qu'il va écrire un message sur le mur? Non. Il utilise ce sur qui a été déversé le Saint-Esprit. Et sur qui a été déversé le Saint-Esprit, la réponse, on la trouve là-dessus dans le livre des Actes, chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit vient sur les disciples qui sont réunis, et l'apôtre Pierre explique ce moment-là et cela, parce que certains disent oh là, certains disent ah ouais, c'est formidable, ils parlent une autre langue, et d'autres disent oh là, ils ont un peu trop picolé, c'est bizarre. Et Pierre se lève. La parole avait dit, oh non, non, c'est pas des ivrognes ici pour un peu trop abuser du piquant bien ou du snack à 9h du matin. C'est la traduction alsacienne de la Bible. Ce qui se réalise, il va dire, c'est pas ça. Il ne trompait pas sur le service, c'est ce qu'a annoncé le prophète Joël. Dans les derniers jours du Dieu, je répondrai de mon esprit sur qui, sur toute chair, mon fils et mon fils, en fait, ils vont. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieux, comme le disait notre orateur la semaine dernière, on a parlé de, il parlait des jeunes et des vieux, vos vieux auront des songes. Oui, sur les serviteurs, sur la servante, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Surtout, le Seigneur veut déverser de son esprit pour les faire parler à la manière des prophètes. La suite du discours de Pierre l'explique clairement. La promesse ne concerne pas juste les apôtres ou ceux qui étaient les 120 dans la chambre haute, mais ça concerne tous ceux qui vont placer leur foi en Jésus-Christ et en Dieu à la fin de son discours, si vous vous rappelez à la fin d'acte 2. Il dit cette promesse, la promesse de l'Esprit, elle est pour vous, vous qui écoutez là, ceux qui vont se convertir, elle est pour vos enfants, et même pour ceux qui sont au loin. Autrement dit, pour tous ceux des nations qui vont ensuite se tourner vers Jésus-Christ et qui le conclut en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. La promesse est pour tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ. Depuis la Pentecôte, notre Dieu parle par l'Esprit qu'il déverse sur ton peuple. Alors, c'est vrai, Dieu a donné des dons particuliers à certains dans le domaine de la prophétie, à certains croyants, comme on voit dans les Écritures de Paul, il y a certains qui ont un ministère particulier ou un don particulier dans le domaine de la prophétie, à la manière d'Agabus. Par exemple, Agabus était la première question qui avait été reconnue dans ce domaine. Mais ce que j'aimerais qu'on puisse aussi considérer, c'est que le livre des Actes nous montre qu'il n'y a pas juste Agabus qui peut être inspiré par le Saint-Esprit pour transmettre une parole inspirée. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, Luc le rappelle bien parce que juste avant de parler d'Agabus, il nous rappelle que ça se passe dans la maison de Philippe, l'évangéliste. Et Philippe, on nous dit qu'il était rempli d'Esprit Saint, selon Acte 6. Et puis on nous dit aussi que Philippe, elle avait quatre jeunes filles, quatre jeunes vierges, des jeunes femmes, non mariées, qui ont un don de prophétie. Mais je me demande pourquoi est-ce que Luc nous parle de ces quatre femmes, jeunes femmes, qui prophétisent, qui ont un don de prophétie. On ne les entend pas parler par la suite, elles n'interviennent pas dans le texte. Vous savez quand Luc écrit l'histoire de l'Église, il y a 20-30 ans d'histoire qu'il raconte en quelques chapitres, il fait des choix. Il ne va pas tout raconter, c'est impossible. En quelques chapitres, il a fait des choix, il choisit ce qu'il va raconter. Ce qui lui semble important, on va faire un exemple. Pour moi, d'un coup, il dit oui, Philippe avait les quatre jeunes filles qui prophétisaient. Mais très probablement parce que Luc lui rappelait qu'Agabus n'est pas le seul inspiré de l'Église primitive. Il y avait même des jeunes filles qui prophétisaient. Tiens donc, Vous voyez, des signes qui prophétisent. Ça ne vous rappelle pas là aussi quelque chose? Toujours la citation de Joël 3 en acte 2, dans les derniers jours, il dit: « Je répandrai mon esprit, vos fils et vos filles prophétiseront. » Le Saint-Esprit a été déversé sur tous les croyants, sans faire de distinction. Les femmes et les hommes sont concernés. Les jeunes et les vieux, comme on a vu la semaine dernière, sont concernés. Les juifs et les non-juifs sont concernés, comme le montre l'épisode de Sylvain dans la maison de Cornel, où les juifs sont des non-juifs et les juifs sont tout éternels. Eux aussi sont inspirés par le Saint-Esprit. Nous sommes tous concernés. Nous sommes conscients de cela. On peut tous être inspirés par le Saint-Esprit à un moment ou à un autre pour transmettre une parole de la part du Seigneur. Alors, on peut le faire en mettant un esprit de pensée, quelques mots qui soient une mémoire, parfois très simple. Parfois, ça concerne l'Église, ou un des groupes de l'Église auquel on participe, peut-être notre groupe de maison. Mais dans ce cas-là, on peut être appelé à être transmettre dans ce cadre-là, dans la supervision des pasteurs, mais, voilà, comme on le verra tout à l'heure, certaines organisations. Mais il me semble que le prophétique peut aussi s'exprimer de différentes manières dans notre vie chrétienne. Ça peut, par exemple, être compris pour faire une fleur de la maison, ou même directement avec la personne, le Seigneur nous met une pensée particulière, une manière pour la d'orienter cette notre prière qui soit inspirée par le Saint-Esprit, peut-être que cette pensée, cette image, soit de celle, on n'a pas besoin de la transmettre parce qu'elle est plus pour orienter notre prière, mais parfois, on peut traiter la transmettre, il a peut-être le Seigneur, ce qu'il a envie de transmettre à cette personne pour qui on prie, il y a qui nous tient le cœur. C'est une manière aussi de voir que le Saint-Esprit s'inspire nos paroles. Ça peut aussi être dans le cadre de notre témoignage auprès de notre enfant. Dieu peut parfois inspirer une parole précise qui va interpeller la personne auprès de qui nous témoignons de notre foi. Je crois qu'on a besoin de se rappeler cela constamment, que Dieu nous a donné son Saint-Esprit, que le Saint-Esprit n'est pas cet esprit silencieux. Il parle, il souhaite inspirer nos paroles. Mettons-nous à l'écoute régulièrement. Peut-être qu'on peut dire chaque jour, je le redire encore au Saint-Esprit, parle Saint-Esprit, je t'écoute, nous t'écoutons. Je veux être à ton écoute, je ne veux pas juste te présenter mes requêtes, je veux pas juste même te louer, t'adorer, c'est tellement une bonne chose, mais je veux aussi écouter. Peut-être que le Seigneur va nous dire à travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit inspire nos paroles et la prophétie et nos paroles inspirées par le Saint-Esprit. Le deuxième point sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête, c'est la manière dont on est appelé à transmettre la prophétie. Le Saint-Esprit ne fait pas de nous des marionnettes. On n'est pas des pantins que le Saint-Esprit serait en train d'utiliser ou qui serait par nous un peu, vous savez, comme le mopotio ou le. Le duo de la foule, et puis nous, on fait un peu pareil, on bouge la bouche, et le Saint-Esprit parle. Non, ce n'est pas du tout ça que le Nouveau Testament nous montre, que la Bible nous montre en rapport avec la prophétie. Dans la prophétie, il y a vraiment une forme de collaboration entre le Saint-Esprit et nous. Nous, en tant que chrétiens, qui avons été sauvés par le Saint-Esprit. Ça signifie que si le Saint-Esprit va nous inspirer une parole, une pensée, peut-être une image, nous sommes aussi responsables de la manière dont nous allons la transmettre à ceux qui ont été soumis. Là aussi, je crois que l'exemple d'Agabus illustre bien ce principe. Ce qui me frappe, c'est que Agabus, qui fait à la fois preuve de créativité dans sa manière de transmettre la prophétie, mais aussi de simplicité. Et on verra aussi un autre élément pour lui. Tout d'abord, on pourrait se dire, Agabus, c'est un geste assez étonnant, n'est-ce pas? Prendre la ceinture de Paul, puis se couche les mains, et les pieds, plutôt les pieds d'abord et les mains, avec. Je ne sais pas si vous imaginez un peu la scène, hein. C'est un peu comme si j'allais trouver Raymond Pierre, ou voilà. Et puis pendant les réunions, je disais Raymond Pierre, est-ce que tu peux me prêter ta ceinture, s'il te plaît? En fait, tu me regarderais comme ça, qu'est-ce qui te passe par la tête? Mais c'est ce que fait Agabus, il va dire à Pierre, à Paul, on ne va pas dire, je ne sais pas ce qu'il lui dit, on aurait peut-être dit qu'il prend sa ceinture, même. Et ensuite, Agabus s'attache les pieds, on imagine la scène, il s'attache les pieds, puis après il s'attache les mains. Vous voyez, je ne sais pas comment il était, peut-être, bon, je ne sais pas dans quelle position il se retrouve, mais c'est quand même assez surprenant, n'est-ce pas, comme geste. Et on va se dire, alors pourquoi est-ce qu'elle devait susciter un tel geste prophétique? Parce que c'est tellement pas parce qu'il y a quelque chose de magique avec ce geste. Oui, non plus parce qu'il voudrait donc se prendre pour le prendre à la réponse de la France. C'est pas non plus un geste obscur qui serait issu d'une interprétation un peu ésotérique de certains textes de Bible, comme des fois on se tendance parfois. Mais ce n'est pas le cas du tout, à vrai dire. Le geste de Gabus, à quoi il sert? Il sert juste à illustrer la prophétie qu'il donne. Qu'est-ce qu'il dit à Gabus? Il dit que Paul va être prisonnier. Et là, il utilise un geste tout simple pour illustrer ça. Il prend la ceinture de Paul et il se dit, voilà, les pieds, c'est ce geste, voilà, il est prisonnier. Autrement dit, c'est que ce geste est là pour illustrer de manière créative, de manière rapproche peut-être, un message que le Saint-Esprit lui donne de transmettre. C'est la première chose. Et après, les gens, il y a aussi des mots, puisque Agabus ne se contente pas de faire ces gestes-là, il parle ensuite, il explique, on pourrait dire, les gestes. Et là encore, je crois que Agabus, c'est simple, et il va à l'essentiel. En fait, dans les actes, on ne nous raconte pas tout, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est possible qu'on ait un résumé de ce qu'Agabus a dit, c'est aussi possible. Je pense qu'il en compte ce texte qu'on a lu, la prophétie, on le fait en une phrase. On lit la phrase, l'homme à qui appartient cette ceinture sera livré de cette façon par les Juifs à Jérusalem, puis ils le livreront au nom de Dieu. Prophétie plutôt simple, plutôt courte. On pourrait se dire, mais pourquoi, c'est une question qu'on se pose aussi, que les commentateurs se sont posés, pourquoi le Gabus annonce que Paul va être prisonnier par les Juifs, va être livré par les Juifs, c'est-à-dire prisonnier par les Juifs à Jérusalem, et qu'ensuite les Juifs le livreront aux non-Juifs, c'est-à-dire aux autorités romaines. Parce que si vous connaissez la suite de l'histoire, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Paul va arriver à Jérusalem, mais c'est l'étape de presse, César, c'est un port à 100 km au nord de Jérusalem, à peu près. La dernière étape, mon père arrive à Jérusalem. Et effectivement, Paul va être fait prisonnier à Jérusalem. Toutefois, ce n'est pas les Juifs qui vont le faire prisonnier. Au contraire, on nous dit qu'il y a, certains Juifs qui sont là dans le temple, qui voient Paul et qui l'accusent à temps, qui disent ah, voyez, il a fait entrer des païens dans le temple, ce qui était interdit à l'époque. Et ils créent une émeute. Et une émeute, on crée dans les portes du temple et on commence à frapper Paul. Et on voit qu'ils veulent mettre à mort Paul. Et qu'est-ce qui se passe? Les Romains, qui sont là pour assurer l'ordre public, interviennent. Ils envoient les CRS, la cohorte romaine de sécurité, qui intervient pour calmer tout le monde. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils emmènent Paul prisonnier. Ce sont les Romains qui emmènent Paul prisonnier. Autrement dit, ce n'est pas les Juifs qui font Paul prisonnier. Les Juifs, certains Juifs, certains agitateurs, voulaient. Faire Paul, voulait presque faire mourir Paul. Mais les Romains, ce sont eux qui ont fait Paul prisonnier, mais en même temps pour lui permettre d'avoir la vie sauve. Et pour dire qu'à la vie, ceci ne serait pas trompé ici sur les détails de sa prophétie, parce qu'il a dit que les Juifs tireront Paul et qu'ensuite ils le livreront en danger. Et moi, je ne pense pas. Parce que la prophétie de Gabus, elle n'a pas pour objectif de donner les détails du futur de Paul. La prophétie, ce n'est pas de la voyance. La prophétie, on le dit en Corinthiens 14, est là pour encourager, exhorter, réconforter. Et si on réfléchit à l'instant, on se rend compte que le Dieu plus loin dans sa vie à Gabus. C'est lorsque Gabus dit Paul, il va aller à Jérusalem, et là-bas, il sera arrêté par les Juifs, il sera livré aux Romains, arrêté par les Juifs, livré aux Romains, à quoi ça vous fait penser tout de suite? Qui a été arrêté par les Juifs de Rome. Jésus-Christ, évidemment. Jésus s'est fait arrêter par les autorités juives à Jérusalem. Jésus lui-même a été arrêté par les Juifs et ensuite livré aux autorités romaines pour qu'il puisse être crucifié. Et je crois que la prophétie de Gabus était là, non pas pour annoncer le futur de Paul, mais pour lui indiquer qu'il va subir un sort similaire à celui de son Seigneur, à celui de son Sauveur, à celui dont il est témoin, à celui dont il est l'envoyé, à celui dont il est l'apôtre, le messager. quelque part, la prophétie va faire comprendre à Paul et aux chrétiens qui tiennent beaucoup à Paul qu'il n'y a pas à s'inquiéter ou s'alarmer au sujet des persécutions que Paul va subir par la suite. Il ne s'agit pas d'un échec, il ne s'agit pas d'un manque de foi, il ne s'agit pas d'un manque de foi, il s'agit simplement de ce qui peut arriver à un témoin fidèle du Christ qui est prêt à aller jusqu'au bout, qui est prêt à aller jusqu'au bout pour proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et Franck Agabus ne s'est pas trompé dans sa prophétie. Il n'a pas fait une mauvaise prophétie, il a été tout inspiré par l'Esprit pour prononcer une parole de réconfort qui va être centrée sur celui qui est au centre de notre foi, Jésus-Christ. De même manière, je crois que nous sommes appelés à prophétiser à la fois avec créativité, avec simplicité aussi, mais en gardant toujours Christ au centre. Le but de la prophétie, ce n'est pas de prédire l'avenir. C'est encore moins de faire peur, des fois, avec des prédictions un peu apocalyptiques, terrifiantes. Le but de la prophétie, c'est d'encourager, c'est de réconforter, c'est de construire l'Église, d'édifier l'Église et ceux qui la composent. Alors, puissions-nous laisser le Saint-Esprit inspirer peut-être notre créativité, comme parfois, Dieu nous rend responsable aussi avec le talent qu'il nous a donné, avec les dons qui sont les nôtres, avec notre manière de nous exprimer. Comment on peut le transmettre efficacement. On peut aussi le laisser illuminer notre intelligence pour que ce soit une parole qui s'applique simplement et surtout compréhensible. Il faut bien comprendre que c'est le but, que c'est bien compris par ceux qui s'adressent. Vous savez, dans le Corinthiens 14, on a vu ça la semaine dernière. Paul insiste sur la nécessité de vivre la vie de l'esprit en tenant compte des personnes qui peuvent être là. Lors de l'événement, et en particulier des personnes non croyantes qui peuvent rentrer, parce que l'église est un lieu public, c'est un lieu entre nous, et il peut y avoir des non croyants qui se réunissent, et donc qui participent, pardon, et qui doivent être peut-être dans l'église, qui va prendre une foi, et si on parle dans des choses un peu obscures, avec un langage incompréhensible, ils vont se dire, oh, c'est quoi ici? Après, ça peut transmettre quelque chose de la part de Dieu avec des mots simples, des mots compréhensibles, des mots qui. On a porté, on va dire, de tous. Et du coup, ça n'est pas trop de canard, maintenant. Et une autre chose, je crois encore, qu'on peut relever dans la manière dont Agabus transmet sa prophétie, c'est qu'il fait cela dans le cadre de la vie de l'Église. Vous voyez, Agabus était un prophète quand même reconnu. On le pense, en tout cas, par les Églises, on parle de lui déjà auparavant dans le livre des Actes. Ce n'est pas un inconnu qui va débarquer comme ça à Césarée et qui va dire un peu « file-moi ta ceinture et laisse-moi t'expliquer ce qui va t'arriver ». Non, Agabus, c'est un prophète, on le connaît, on sait que c'est quelqu'un de sérieux, apparemment, on lui fait confiance, on lui laisse la parole. Il y a dû y avoir un discernement, le livre d'Isaac ne dit pas comment on procédait à l'époque, mais il y a une forme de discernement de l'Église pour reconnaître qu'il y avait un don particulier sur Agabus. Ça, c'est quelque chose d'important. Ensuite, Agabus, il ne va pas donner sa prophétie en catimini. Il ne va pas rendez-vous à Paul dans son cabinet de prophétologie pour lui faire une petite prophétie personnalisée en lui disant c'est juste en tenue, surtout si vous voulez personne. Non. Il dit cela en présence de témoins. Le témoin est chrétien. Sûrement dans le cadre d'une réunion de l'Église de Césarée. Alors, certes, il n'était pas un 600 réunis comme nous aujourd'hui, ou 50 ans, mais il n'était pas plusieurs centaines réunis dans la maison de Philippe à Césarée, parce que c'est un peu serré dans une maison normale. Il était probablement que quelques-uns, peut-être quelques dizaines tout au plus. Toutefois, Agabus transmet la prophétie dans le cadre d'une rencontre de chrétiens. Et en faisant cela, je crois qu'il se place dans une attitude qui est propice au discernement de l'Église. Il y a une certaine humilité dans cette attitude-là. Alors vous allez me dire, oui, mais Agabus, il dit quand même ça avec une certaine autorité, voici ce que dit le Saint-Esprit, donc c'est quand même un peu fort. Je crois qu'encore, quand Agabus dit pas voici ce que dit l'Éternel, il dit voici ce que dit le Saint-Esprit, et c'est intéressant parce que Agabus, en faisant cela, se met au même niveau que les autres croyants qui ont aussi le Saint-Esprit. Il n'est pas le seul inspiré parmi les croyants réunis à Césarée. Parmi ceux-là, le Seigneur Paul, Paul c'est certainement l'inspiré, Philippe, le rempli du Saint-Esprit, c'est quatre elle prophétise aussi. Vous voyez, Agabus se met au même niveau que ceux à qui la prophétie s'adresse. Ce sont aussi des croyants qui ont le Saint-Esprit. qui peuvent aussi être inspirés à sa manière. Et c'est vraiment un bel exemple de la prophétie vécue en Église. L'Église dans un sens large, hein, l'Église des rassemblements des croyants à Jésus. Le prophète chrétien, vous connaissez qu'il n'est pas le plus spirituel ou le plus inspiré que le reste des croyants qui ont aussi son esprit. Et du coup, il est prêt à soumettre sa prophétie à l'Église. Mais s'il peut faire preuve de créativité, je crois qu'il ne faut pas. Voilà, il y a une certaine créativité, il y a une certaine, quand même, l'esprit peut nous conduire à une certaine liberté. Il faut aussi être attentif, je crois, à l'organisation de l'Église. Et ça ne se pose pas. C'est-à-dire que le gabus n'intervient pas n'importe quand, n'importe comment. Donc, comme le dira Paul en 1 Corinthiens 14, c'est de la prophétie, l'inspiration prophétique. Mais pas le contrôlable. Et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas contrôlable? Pourquoi est-ce qu'on peut avoir une certaine organisation dans l'Église et qui fait qu'on profite dans ce cadre-là? Parce que Dieu lui-même est un Dieu de paix et non pas un Dieu de désordre. L'idée d'une certaine organisation est même liée à la nature de Dieu, à la nature du Saint-Esprit. Et souvent, on pense ça. La liberté du Saint-Esprit et la vie de l'Église d'organisation. Et si vous lisez le livre des Actes, ce n'est pas, du tout la manière de voir de l'auteur. Au contraire, il va nous dire que voilà, on a des choses surprenantes comme à la Pentecôte, il y a des disciples qui se mettent à parler en langue, ça c'est le Saint-Esprit qui le produit. On a des choses voilà, extraordinaires qui se passent de manière un peu. On dit, oh, quand même, Saint-Esprit là. Et puis il y a d'autres moments où il nous dit que, par exemple, les anciens de l'Église de Fès ont été établis par le Saint-Esprit. On a mis en place des anciens, on a structuré l'Église, on a proposé une organisation dans l'Église, et ça, ça a été conduit par le Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose qui sort de la nature humaine. Parce que, bien sûr, on peut avoir des fois des excès d'organisationnite ou de réunionnite, de bureaucratie, je ne sais pas quoi, dans l'Église. On doit être attentif à ça. Mais absolument aussi, je crois qu'on peut apprendre à voir des fois la bonne organisation de l'Église comme une manière qui peut être utilisée par le Saint-Esprit, aussi pour nous faire progresser, aussi pour nous aider à avoir une certaine sécurité aussi. C'est pour ça que les pasteurs, les enfants sont appelés à veiller sur le troupeau, comme on l'a dit en acte 20. Et y compris, je crois, dans le prophétique, que c'est ça s'oppose la liberté de l'esprit et l'organisation de l'Église. La troisième étape dans la communication prophétique, c'est l'accueil et le discernement de cette prophétie en Église. Et si vous voyez dans le texte qu'on a lu, il y a une vraie discussion. Il y a une vraie discussion qui s'engage suite à la prophétie d'Agabus. Alors, même si, hein, encore une fois, le livre des Actes ne raconte pas tout, on a plutôt un résumé de la discussion. On ne sait pas exactement combien de temps ça va durer, ce qui s'est dit, etc. C'était vraiment un peu. Ou je ne sais pas. En tout cas, on voit qu'il y a un désaccord. Il y a un désaccord parmi les chrétiens sur la suite et devant l'avertissement de la prophétie. Parce que qu'est-ce que disent les amis de Paul? Ils ont entendu que Paul va être fait prisonnier à Jérusalem. Qu'est-ce qu'ils disent? Ne va pas à Jérusalem, surtout pas. Enfin, Paul, tu ne vas pas te jeter dans la gueule du loup. On comprend tout à fait leur réaction. C'est naturel. Les amis de Paul, ils n'ont pas envie qu'il soit fait prisonnier. Et Paul, lui, il a bien compris le sens de la prophétie. Voyez ce qu'il dit. Et ce qu'il répond, dit juste tout près, non seulement à être lié à Jérusalem, mais à mourir pour le nom du Seigneur Jésus. Et Agabus n'a pas annoncé que Paul va mourir à Jérusalem, non. Mais Paul, il a compris le sens de la prophétie d'Agabus. Il a compris que la prophétie comparait le sort qu'il attendait à Jérusalem, à celui de qui? À celui de Jésus. Parce que Jésus, lui, il est mort à Jérusalem. Et Paul va faire comprendre, je crois, à travers cela, ce qu'on peut voir dans le texte, il va faire comprendre aux autres chrétiens qui sont là, qu'il est prêt à aller jusqu'au bout, s'il le faut. Il est prêt à suivre Jésus jusqu'à la mort. Et au final, tout en le croyant, il laisse partir Paul et déclare que la volonté du Seigneur soit faite. Et il mérite les soucis. Du coup, de ça, en disant que la volonté du Seigneur soit faite. Et en fait, ça ne vous rappelle pas quelque chose, cette phrase, que la volonté du Seigneur soit faite, lui, Jésus lui-même. Jésus lui-même, lorsqu'il est dans le jardin de Gethsémani, juste avant d'être arrêté, qu'est-ce qui va dire à son Père céleste, lui dire, mon pain de ma volonté, et que ta volonté soit faite. Et je pense que le livre des Actes fait clairement le lien ici avec cet épisode, pour nous faire comprendre que l'Église comprend bien qu'elle est sûre de cette prophétie, mais ça a pris du temps, ça a pris de la discussion, ça s'est permis tout de suite comme cela. Et là, on comprend que, effectivement, Paul va être prisonnier, ce n'est pas nous allons à Jérusalem, il mourra bien plus tard à Rome, mais ce n'est pas contre la volonté de Dieu, c'est quelque chose. Ça pourrait y aller jusqu'au bout, dans son témoignage, et ça lui en a coûté, malheureusement, de la vie. Mais pour ça, il y a un témoin fidèle de Jésus-Christ. Je pense qu'on montre d'ailleurs la nécessité aussi de discuter ensemble, de discerner ensemble, parfois c'est un thème de prophétie. Alors, j'avais poussé l'été dernier sur la question du discernement. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Il y a une fois que la vidéo est encore sur le site, si jamais vous voulez revoir ça, le site de l'EPI. Je rappelle simplement trois critères importants pour le discernement. La première chose, c'est qu'une foi chrétienne ne peut pas être en désaccord avec la parole de Dieu. Sûre et certaine, vraiment notre foi, c'est quoi cette parole de Dieu sûre et certaine, c'est la Bible. Alors, dans notre passage, je ne sais pas encore une fois ce qui s'est dit, mais peut-être que les croyants se sont remémorés les textes de l'Ancien Testament, vous savez, qui évoquent la persécution des prophètes. Peut-être qu'ils se sont aussi souvenus de ce que Jésus lui-même avait annoncé au sujet de ceux qui allaient se mettre à sa suite et qui ne pouvaient pas s'inquiéter s'ils pouvaient arriver parfois des persécutions. Ça faisait partie, ça pouvait faire partie du témoignage chrétien, mais il fallait voir au-delà, il fallait voir l'espérance. Au-delà de ça, on ne fallait pas s'inquiéter. On trouve qu'il est ça. Mais en tout cas, c'est un critère qu'on trouve clair dans la Bible, critère de l'accord avec la parole de Dieu, la Bible. La prophétie ne peut pas être en désaccord avec ce que Dieu a déjà dit. Deuxièmement, une prophétie doit tourner les regards, je crois, vers celui qui est au cœur de notre foi, Jésus-Christ. Et si la prophétie nous détourne, nous l'a parfois ainsi dit à du temps de Jésus-Christ, de ce qui est au cœur de la vie de notre foi, on a souci. Mais si au contraire, on voit la grâce en Jésus-Christ, on voit le pardon en Jésus-Christ, on voit celui qui nous aide à rentrer un projet de modèle par excellence à travers la prophétie, alors je crois qu'il y a quelque chose de bon derrière tout ça. Parce que c'est lui qui nous fournit le pardon, la restauration, l'espérance au-delà de la mort. Et dans le cas de la prophétie d'Agabus, j'espère qu'on a bien compris, on retrouve ce critère. Comme j'essaie de le montrer, Jésus-Christ est le modèle. Et c'est là-dessus que la prophétie se modélise, on pourrait dire. Enfin, la prophétie a pour but la construction de l'autre, et par extension, la construction de l'Église. L'édification de l'Église, la construction. Et là aussi, je crois que la prophétie d'Agabus a aidé l'Église à grandir, à progresser. Parce qu'à travers ces prophéties, on a compris que la persécution que Paul allait subir, puis postérieurement qu'il avait subi, ce n'était pas une faute, ce n'était pas un manque de foi, ce n'était pas un masque de planté. Non, au contraire, ces prophéties montraient que Paul, avant qu'il subit un sort assez similaire à celui de son Seigneur, et que c'est tout simplement parce qu'il était un témoin fidèle de Jésus-Christ qui est arrivé. Même si ça lui a coûté la vie. Et en fait, à mon avis, la prophétie d'Agabus n'a plus servi à réconforter l'Église qu'à réconforter Paul lui-même. Parce que Paul lui savait déjà ce qu'il attendait. Si vous vous rappelez, si vous connaissez le chapitre 20 du livre des Actes et le chapitre 21, plusieurs fois on voit que Paul est averti ce qu'il va l'attendre à Jérusalem. Et au chapitre 20, quelques semaines auparavant dans cet épisode, il est en Asie mineure, la Turquie actuelle, et Paul a déjà déclaré que dans les églises où il passait, le Saint-Esprit l'avertissait et inspirait les uns et les autres pour lui indiquer ce qui allait mal se passer à Jérusalem. Et voici ce qu'il dit déjà à ce moment-là. Alors qu'on a déjà très bien dit, ma vie n'importe peu. Je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié, c'est-à-dire de proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Voilà ce qu'il dit en acte 20, verset 24. Paul savait déjà ce qu'il attendait. Il avait déjà pris la décision d'aller jusqu'au bout parce qu'il savait que c'était ce à quoi le Seigneur avait pu proclamer la bonne nouvelle. Et même si c'est vrai, lui coûtait la vie, Dieu, pour moi, la vie n'importe quoi. Il le sait, il le sait. On termine. Dans les tenants du nom de Dieu, dans l'acte 2, Joël 3, je répandrai de mon esprit sur toute la terre. Aussi, ces refus prophétiseront vos jeunes gens, vos religions, vos vieillards, vos grands jeunes. Je crois que depuis la Pentecôte, nous devons les inspirer. Dieu déverse son Saint-Esprit. Restons conscients de cela. Il déverse non seulement sur des hommes, mais aussi sur des femmes, sur des jeunes, sur des moins jeunes. Il n'y a pas de distinction de génération, pas de distinction de genre, pas de distinction de nationalité. C'est tous ceux qui composent l'Église. Le Saint-Esprit est déversé. C'est extraordinaire. C'est bon que cet esprit n'est pas le plus silencieux. Il parle. Il parle de tout, il veut s'exprimer à travers nous. Lorsqu'on est prêt à laisser le Saint-Esprit parler à travers nous, peut-être encore une fois, on a dit, je dis, tout à l'heure, on prie régulièrement pour une personne. Et puis, on a déjà tout le temps d'écouter ce que le Seigneur avait peut-être à dire pour cette personne, à travers lui. Peut-être qu'il va nous inspirer une parole à propos qui va pouvoir encourager, réconforter, faire avancer cette personne pour qu'elle prie. Parce qu'on a conscience que son esprit peut et veut inspirer juste par nos paroles. En fait, c'est un peu de cette peur. Hein. Peut-être qu'on n'est pas très sûr de nous. Parfois, on se dit est-ce que ça vient du Saint-Esprit? Est-ce que c'est pas moi qui imagine des choses? Est-ce que je m'y prends bien? Est-ce que j'ai bien dit les choses et pas bien dit des choses? Je crois que si vous vous posez cette question, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Votre père céleste a placé autour de vous une famille. Les frères et sœurs en Christ, qui ont aussi le Saint-Esprit, et dans la même temps, cette expérience dans le monde, on profite de vous. On n'est pas appelé à devenir des prophètes solitaires qui crient dans le désert. Vous m'invitez à vivre en accord avec le temps de Dieu, avec le temps et l'époque dans laquelle nous vivons, et quelle est cette époque dans le Nouveau Testament, c'est celle qui est située entre la Pentecôte et le retour de Jésus, celle où Dieu déverse son esprit sur son Église, pour faire d'elle un peuple prophétique. Nous sommes appelés à vivre une prophétie ensemble, et c'est une bonne nouvelle. Et ça, nous sommes que Jésus va là. Peut-être que là, tu t'es trompé, peut-être que là, tu vas améliorer les choses. Ils peuvent aussi appeler les voix à l'intérieur si tu penses que c'est inspiré, peut-être que. Oui, vas-y, tu te sens là, qu'est-ce que tu te sens très loin, etc. On est en famille, on est là, avec des frères et des sœurs qui sont parfois plus expérimentés, qui peuvent nous conseiller. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est comme ça que Dieu a voulu la prophétie depuis de Pentecôte. Nous sommes appelés à vivre la prophétie ensemble. Nous encourager les uns les autres à prophétiser ensemble, décidément ensemble. Est-ce que vous êtes partant pour ça? Amen. Alors peut-être si vous voulez un peu plus, si vous le voulez, pour ceux qui peuvent vous le faire, tenir devant Dieu, puis on va prier. Suite à ce qu'on a entendu la parole de Dieu, et on veut examiner nos vies à la lumière de la parole de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Seigneur, nous nous tenons devant toi maintenant. Toi, notre Père, un Père bien-aimant, qui a donné ta vie, la vie de ton Fils Jésus-Christ, pour nous sauver, pour faire de nous un peuple, sur tout qui déverse son Saint-Esprit, Seigneur. Et Seigneur, on veut s'en souvenir que tu déverses ton Saint-Esprit sur ton Église. On ne pense pas que c'est quelque chose qui est lié au passé, qui est lié à l'histoire de la première Église, mais c'est quelque chose que tu fais aujourd'hui. On en est témoin, on le voit, et Seigneur, on veut le vivre par-dessus tout. On veut être ce peuple rempli de ton Saint-Esprit qui va transmettre des paroles de ta part qui va se laisser inspirer par toi, Seigneur, pour transmettre des paroles prophétiques qui va se laisser inspirer par toi dans leur témoignage, dans leur vie de prière, dans toutes les choses que le Seigneur peut nous dire, et la fin, Seigneur, d'enseignement qu'on puisse être ce peuple prophétique pour toi. Seigneur, on te demande pardon pour notre peur parfois, pour notre timidité qui n'est certainement pas liée, Seigneur, à ton esprit, puisque tu nous as donné un esprit, non pas de timidité, mais de force, de sagesse et d'amour. Et Seigneur, nous voulons saisir ce qu'on veut croire. Et te demander encore le Seigneur, parle à travers nous. Parle à travers nous. Rends ce peuple qui témoigne de toi, de ta parole dans nos quotidiens, Seigneur. On veut voir une différence à travers nos paroles, Seigneur, à travers notre attitude, à travers vraiment si on est des amis, nous encourager mutuellement les uns les autres dans cela. On est des amis, on dit, c'est bien aussi ensemble en Église, et nous, on va pouvoir témoigner et faire cela dans l'amour, parce que l'amour est le fruit aussi de l'Esprit. Et tout le monde encore pour ton Saint-Esprit. Équipe-nous, Seigneur, encore. Fassez-nous, envoie-nous. Nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen.